Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
I haven't the least idea in the world.
We've come to ask for shelter. We've lost our way.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale cinéma fantastique avec La Maison de la Mort de James Whale. Peggy Sue s'est mariée, ça c'est deux films sortis chez Carlotta. Et Magic de Richard Attenborough, paru chez Rimini. Et puis on parlera d'un livre aussi sur un réalisateur mythique, hein, rattaché au genre. Alors rattaché au fantastique, rattaché également à l'horreur. On parle de body horror aujourd'hui d'ailleurs. Enfin bon, on utilise plein de termes pour parler de ce cinéaste un peu démentiel, hein, voilà. Ce livre s'appelle La Transgression selon David Cronenberg. Et oui, on parle du fameux réalisateur canadien. Hein, et donc le livre est paru chez Playlist Society. Et cet ouvrage, nous l'aborderons en compagnie de son auteur, Fabien Demangeau. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Benjamin Fogel et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission.
You shouldn't have come here. You see, it may be dangerous.
Oh, Philip, not something else horrible.
You're afraid, aren't you? You don't believe in God, and yet you're afraid to die.
Pour causer fantastique, je suis aujourd'hui accompagné de deux monstres de la Universal. Voilà, ils se sont échappés des grands classiques de la Universal. Il y a Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, hein, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et oui, vous l'aurez deviné, Damien est à la recherche du chaînon manquant et c'est lui qui a découvert l'étrange créature du lac Noir, mais personne ne le sait en fait. C'est un secret entre nous. Autre secret, hein, mais maintenant c'est trop tard, on va le dévoiler. Dans ce studio, il y a également un homme qui chaque nuit de pleine lune se transforme en loup-garou. Le fameux loup-garou Picard, et qui en profite d'ailleurs pour enregistrer une émission qui s'appelle « À l'écoute du cinéma », que vous pouvez écouter sur RCA. Et cet homme, il s'appelle Thomas Roland. Bonjour mon petit loup-garou Picard préféré.
Bonjour Damien, bonjour Gégé, et bien évidemment bonjour à toutes.
S'il y a bien un réalisateur qui est adulé des fans de fantastique, c'est James Whale, en particulier pour Frankenstein et la fiancée de Frankenstein. Mais James Whale n'a pas signé que ces deux films. Hein, et entre autres, dans ses autres films, il y a un film très, très, très particulier, vraiment très marquant, qu'on ne cesse de redécouvrir, c'est La Maison de la Mort. La Maison de la Mort, The Old Dark House, qui est un film de 1932, et qui part d'un pitch, comme on dit maintenant, un pitch tout simple. Alors qu'il traverse une région isolée du pays de Galles, monsieur et madame Waverton et leur ami Philippe sont pris dans une terrible tempête. Ils trouvent refuge dans une vieille demeure tenue par Rebecca Ferm et son frère Horace, secondé par Morgan, leur étrange majordome muet et défiguré. Alors que deux autres visiteurs sont également hébergés, leurs hôtes font preuve d'un comportement de plus en plus terrifiant. Voilà, et ça va donner, mon cher Thomas, un film vraiment, vraiment, vraiment excellent.
Oui, je pense que c'est l'un des premiers films de maison hantée. Hein, tout du moins, bon, c'est pas vraiment de la maison hantée, mais ça pose tout du moins les bases du film des maisons hantées, avec les personnages qui se sont égarés, qui sont dans une grande demeure sombre, isolée au milieu de la forêt ou d'un paysage désertique. L'orage, le vent, et tout ça, James Whale fait avec tout ça une ambiance particulièrement stressante, angoissante. Il joue beaucoup sur les ombres au niveau de la mise en scène. 1932, je trouve que le film, il est extrêmement moderne au niveau de la mise en scène, au niveau du découpage, c'est très dynamique, et il arrive à imposer une ambiance en 1h12, le film est très court, il fait 1h12, il arrive à imposer une ambiance particulièrement angoissante, et je trouve que le film est bien plus efficace que certaines productions récentes.
Tu as parlé de l'atmosphère, Thomas, dont tu disais qu'elle est stressante, mais je trouve en soi qu'elle n'est pas si stressante que ça, parce que au sein même, tout ce qui pose au niveau du décor et des sonorités crée à tout pour créer une atmosphère pesante. La maison en pierre, justement, cette pluie constante, ce vent qui n'arrête pas de s'infiltrer à l'intérieur de la maison. Mais au milieu de ça, on a aussi des personnages qui, en soi, sont assez triviaux et qui créent des situations assez comiques. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une sorte de mélange de genres assez particulier à l'intérieur du film. Par exemple, comme on l'a dit, le film en soi est pas très long, et au milieu de ça, on a quand même deux personnes qui vont se rencontrer, avoir le coup de foudre et décider de se marier quasiment le lendemain. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que au final, il continue du coup sur sa lancée gothique, comme peut rappeler le titre The Old Dark House, et c'est intéressant parce que toute l'atmosphère en soi est lié, et c'est vraiment, comme tu as dit, le début de la maison hantée. Un peu ce qu'on a justement dans Dracula, avec ce début de personnes anglaises qui se retrouvent dans une maison où finalement Dracula est seul à habiter. Et ce qui est intéressant, c'est à travers l'atmosphère que j'ai légèrement critiquée, mais qui demeure intéressante, c'est justement l'entrée même de l'histoire. C'est-à-dire que ces gens se retrouvent bloqués dans cette maison. Ils sont contents parce qu'ils sont protégés de la pluie, mais les personnes qui sont inquiets, en fait, ce sont les propriétaires même de la maison qui commencent à paniquer, et ça crée une atmosphère assez ambiguë que j'apprécie énormément.
Après, sur ce film, donc la Maison de la Mort, hein, bon, déjà, il faut dire que la copie proposée, là, elle est extraordinaire, puisque c'était un film que pendant longtemps, les cinéphiles ont cru perdu. Enfin bon, et là, on l'a dans une copie incroyablement belle, hein, vraiment d'une très grande qualité, une copie restaurée, un nouveau master qui est assez exceptionnel. C'est aussi un film qui s'inscrit, on est dans l'époque, totalement dans l'expressionnisme allemand, enfin voilà, dans ce qu'il propose de plastique. C'est un film, tu l'as dit, pour moi c'est une de ses qualités, qui mélange les tons, mais moi je pense que c'est ce qui fait la force du film et ce qui fait sa modernité, en fait, d'ailleurs, ce qui fait que pour moi il vieillit pas, c'est qu'il y a effectivement un humour sous-jacent, il y a des moments, il y a une sorte de charivari comme ça dans les sentiments que ressent le spectateur, qui est complètement volontaire, hein, et qui pour moi d'ailleurs fait que ce film-là, je pense que c'est un des films de chevet de Rob Zombie, par exemple, enfin pas du Rob Zombie récent qui malheureusement n'a plus grand-chose à dire dans son cinéma, mais du Rob Zombie des débuts, de La Maison des Mille Morts, de Devil's Reject. On retrouve un peu ces ruptures de ton, ce mélange entre la terreur, l'horreur, l'humour, tout en respectant le genre, c'est-à-dire pas en parodiant. Il y a juste des moments d'humour, quoi. Voilà, dans le film, c'est ça c'est très intéressant. Alors Thomas l'a dit, le découpage est extraordinaire. Voilà. On voit aussi que Well maîtrise très bien ses décors. Enfin, il a un sens de. Il place sa caméra toujours où il faut. Il a un sens de l'espace qui est assez extraordinaire. On n'est jamais perdu, en fait. On sait toujours où on est, on sait toujours où on va dans cette demeure. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup. Ah, il y a une scène de repas qui est géniale. Hein. Je pense que Toby Hooper a vu cette scène de repas avant de faire son massacre à la tronçonneuse, ou en tout cas elle lui a trotté dans un coin de la tête, quoi. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est aussi qu'il y a très peu de musique, en fait. Et c'est là qu'on voit que c'est un grand metteur en scène, parce que à l'époque, la musique pour illustrer, c'était quand même vachement utilisé, quoi. Jusque dans les années 50-60, et après, à partir des années 70, la musique est utilisée de manière beaucoup plus intelligente, en particulier par les réalisateurs du Nouvel Hollywood. Et puis, ça s'est un peu gâté ces dernières années où la musique redevient omniprésente et parfois sans, sans vraiment d'intérêt. Voilà. Et là, à l'époque, lui, dans une époque où on mettait de la musique tout le temps, il suffit de revoir les films même de grands réalisateurs comme John Ford, à l'époque où il y a de la musique tout le temps, en fait. Pourquoi il y a de la musique, quoi, voilà. Lui, il choisit de quasiment pas mettre de musique et de travailler presque sur une ambiance sonore, j'allais dire naturaliste. Le film ne l'est pas, mais presque sur l'ambiance sonore, en tout cas presque naturaliste. C'est un film, pour moi, qui mérite clairement d'être réévalué et d'être placé au, comment dire, au niveau de ses meilleurs films, avec ses deux Frankenstein, évidemment, son homme invisible aussi. Hein. Enfin, c'est vraiment, pour moi, un film vraiment passionnant.
D'ailleurs, cette utilisation du son, l'orage, le vent, c'est devenu un cliché par la suite. Alors, quand on découvre le film aujourd'hui, on se dit « Ah, oh, c'est cliché !» Mais non, le film pose les bases, à mon avis, de ce genre de mise en scène. Et c'est là où le film est très fort, justement, cette utilisation du son, des éléments naturels, etc. Mais je retiens un plan, surtout, où l'un des personnages féminins se met à faire des jeux d'ombre. Et là, il fait un truc avec la caméra, qui est quand même assez affolant pour l'époque. La caméra se déplace, l'air de rien. Et puis, il joue avec les ombres, et tout d'un coup, on voit une autre ombre surgir de l'ombre de la femme. Et la caméra, elle fait des mouvements, là, que je trouve quand même assez extraordinaires. Là, le film est vraiment épatant pour ça. La fluidité de la mise en scène, elle est vraiment extrêmement moderne.
C'est tellement brillant, en fait, que le... Comment dire ? La maison traduit, en fait, grâce à la mise en scène, traduit l'état mental des personnages, en fait. C'est assez fort hein, quand même, hein. C'est assez fort, hein. C'est vachement ambitieux artistiquement. Parce que bon, quand on fait tourner ça à James Whale, on lui fait tourner une série B de studio, hein. On lui demande pas de... Voilà, il aurait pu se contenter d'illustrer platement le film, mais non, il a trop de talent pour ça. Et franchement, je vous invite à voir cette copie, une copie 4K quand même, hein, donc, qui est sortie chez Carlotta, de ce film vraiment d'un classique méconnu qu'il faut redécouvrir donc dans la filmographie de James Whale, La Maison de la Mort. Écoutez Culture Prohibée. Alors, toujours chez Carlotta, Thomas, un film nettement plus récent, enfin pour. Certains vont nous dire que c'est vieux, vu que c'est 1986, hein, voilà. C'est Peggy Sue s'est mariée, film de Francis Ford Coppola, qui est un film quand même qui a irrigué quand même grandement la culture populaire et beaucoup de cinéastes dans les années à venir. Il y a qu'à voir Camille Redouble de Noé Milowski, hein, qui est complètement repris du film, hein, voilà, hein, qui est un copier-coller du film. Effectivement, Peggy Sue s'est mariée, film fantastique de Coppola, qui, en fin de compte, est un réalisateur, Coppola, qui s'est souvent un coquiné avec le genre.
Je n'irai pas jusqu'à dire que Coppola a souvent frayé avec le genre, que ses films aient parfois une tonalité ou quelques fulgurances plutôt surréalistes. Oui, bon, il y a Twixt, effectivement, que moi j'aime beaucoup, hein, qui est un film fantastique. Mais en même temps, Peggy Sue, est-ce vraiment un film fantastique ? Parce que, bon, il y a... le fantastique est plus un moyen plutôt qu'un réel argument dans ce film où cette femme mariée se retrouve à l'époque où elle était étudiante, juste avant qu'elle ne prenne la décision de se marier avec, avec l'homme à qui elle vit, alors qu'elle, avec qui elle vit et avec qui elle a eu des enfants, qui est Nicolas Cage. Et donc, elle revient, alors qu'elle était étudiante, et se retrouve après un malaise, elle se réveille dans les années 60. Et donc, voilà, elle se demande, parce que son mariage va à volo, hein, ça ne se passe pas très bien, elle se rend compte que son mari est minable, elle le méprise, lui, il la trompe. Et donc, elle a l'occasion de pouvoir faire un choix et de refaire sa vie. À partir de là, Coppola, il fait autre chose. Hein. C'est un film effectivement sur le mariage, sur les choix de vie, etc. Donc c'est un film aussi qui est très, qui s'inspire quelque part d'Alice au pays des merveilles. Il y a ce jeu de miroir, hein, qu'on voit au début puis à la fin, où elle passe de l'autre côté en fait. Hein. Bon, c'est un film aussi qu'on pourrait qualifier de féministe. Hein. Je pense que c'est oui, c'est un film féministe parce que Peggy Sue, en fait, se rend compte que, avant de faire le choix définitif de se marier, bah, elle a le droit de s'amuser un petit peu, quoi. Bah, c'est plutôt un film mélancolique, hein. Plutôt un film mélancolique. Un film sur la famille aussi. Hein. La famille, c'est très présent dans le cinéma de Coppola.
Peggy Sue, qui est jouée par Kathleen Turner, et avec qui je trouve beaucoup de ressemblances avec Nicole Kidman. Ce qui est intéressant dans le film et qui m'a assez, qui m'a personnellement épaté, que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on ait quand même Nicolas Cage et Jim Carrey qui se donnent la réplique dans un film de Coppola et qui ont même un moment musical tous les deux, ce que je trouve assez surréaliste mais plutôt chouette dans le film. Je n'ai pas du tout pu m'attacher au personnage parce que quand elle revient à ses 14 ans, elle retrouve en effet un moment de liberté, un moment où finalement elle n'est pas ancrée par le mariage ni par les enfants, et elle décide finalement d'une certaine façon de tout détruire et de changer un peu ce qu'il y avait. C'est-à-dire que, vu qu'elle a des connaissances de ce qui va arriver, elle décide de tenter d'inventer immédiatement ce que sera le futur pour essayer de s'enrichir. Elle trompe, Nicolas Cage, qui joue son petit ami sur le moment, alors qu'il va la trahir et qu'il va détruire le message bien plus tard, ce qui fait qu'en fait, elle fait payer à quelqu'un qui l'adore et qui l'aime des fautes qu'il n'a pas encore commis. Et je trouve que autour de ça, le film a un côté assez... moralisateur, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le moment où Peggy Sue justement est renvoyée, c'est pas seulement avant de se marier, mais c'est aussi à la sortie du lycée donc américain, donc le moment où elle va décider de ce que sera sa vie à l'avenir, et la façon dont elle décide de le modifier, c'est-à-dire tout détruire pour avoir une meilleure vie, plutôt que finalement modifier ce qui pourrait aller mal, je trouve qu'en effet ça renforce le côté mélancolique du film.
La mélancolie, elle irrigue vraiment la filmographie de Coppola. Bon, c'est quelqu'un aussi qui a eu des aléas dans sa vie, il lui arrivait des choses terribles, hein, voilà. Et bon, en particulier le décès d'un de ses enfants, tout ça. Et la mélancolie irrigue son cinéma, et particulièrement dans cette période, je veux dire, des films comme même Rusty James, comme Outsiders. Il y a toujours une mélancolie chez Coppola très, très présente. C'est une période qui n'est pas forcément facile pour lui. En fait, je crois que Peggy Sue, c'est un peu sa bouée de sauvetage parce que c'est un film qui va bien fonctionner alors qu'il enchaîne plutôt les flops. Hein, Coppola est bon, réalisateur brillant. Hein, Conversation secrète, Apocalypse Now, tout ça, des films qui ont fait sa renommée. Mais il est dans une période difficile là, à ce moment-là. Et moi, j'y vois pas un film moralisateur. Hein. Je vois plutôt comme l'a dit Thomas, un film féministe. Mais je vois surtout Coppola qui s'amuse aussi avec l'idée du paradoxe temporel. Et en fin de compte, ce qu'il fait faire à son personnage, c'est quelque chose. Parce que je trouve ça plutôt bien, moi, de faire plutôt un personnage qui répare. Au lieu de faire un personnage qui répare son futur, c'est un personnage qui se venge de ce qui va lui arriver dans son futur. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, moi. Parce qu'en fin de compte, la nature humaine étant ce qu'elle est, je pense que si nous revenions dans le passé, comme le fait Kathleen Turner dans le film, Kathleen Turner qui, au, au demeurant est excellente, hein, c'est vraiment une de ses meilleures prestations. Je pense qu'on en profiterait pour ne pas reproduire des erreurs et pour effectivement faire payer à des gens. Enfin, peut-être qu'elle savait que Nicolas Cage, qui est le neveu de Coppola d'ailleurs, hein, allait finir par devenir un acteur en roue libre. Hein. Elle a raison, Kathleen Turner, elle le prévient, elle lui dit « Arrête Nicolas, ta carrière va connaître un tournant étrange. Hein, à partir des années 80, deuxième partie des années 90, ça va devenir bizarre, Nicolas. » Non, plus sérieusement, oui, c'est un drôle de film. C'est un film qui sort quasiment en même temps que Retour vers le futur. C'est assez marrant parce qu'en fin de compte, ils ont des... Je ne sais pas traiter de la même manière, mais ils ont des histoires assez similaires, en fait. Hein, voilà. Et c'est un drôle de film, c'est un drôle d'objet cinématographique. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le Coppola de cette période-là, moi, je trouve que ce que j'aime beaucoup, c'est que parfois, dans son cinéma, il y a de la naïveté, il y a des maladresses, mais il est touché par une sorte de grâce, quoi. Voilà, je trouve qu'il y a une sorte de beauté dans son cinéma à l'époque qui ne s'explique pas. Ses films sont plus forts que le spectateur, en fait, par moment.
Il y a aussi ce qui va à l'encontre de l'idée que le film est moralisateur, c'est qu'il ne juge pas ses personnages. Il ne juge pas ses personnages, il a de la compassion pour eux. Et même le personnage incarné par Nicolas Cage, finalement, ça se termine bien, en fait. Ça se termine bien, et puis elle se rend compte que cet homme qu'elle a toujours... Qui l'a trahi et qui l'a déçu, finalement, elle l'aime toujours et elle se souvient de pourquoi elle l'a aimé et pourquoi elle l'aime toujours, quoi. Il y a aussi une touche d'humour, il y a aussi de la dérision. Je pense notamment à cette fausse loge franc-maçonne où ils veulent la faire revenir dans le futur, etc. etc. C'est très drôle. Mais je pense qu'effectivement, Coppola, je suis d'accord avec Jérôme, c'est plutôt un film plutôt... Enfin, c'est pas moralisateur, quoi.
Prohibé spécial fantastique. Autre cinéaste, autre ambiance, j'ai envie de dire, c'est David Cronenberg. Alors David Cronenberg, lui, il s'est fait consacrer il y a peu un ouvrage écrit par Fabien Demangeau et qui est paru chez Playlist Society, un ouvrage qui s'appelle La transgression selon David Cronenberg. On va, comment dire, entrer en contact avec l'auteur de l'ouvrage, donc Fabien Demangeau, et échanger avec lui sur le cinéma de David Cronenberg, un des maîtres du fantastique, de l'horreur, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas un auteur à part dans le genre qui nous intéresse. Donc tout de suite, Fabien Demangeau au micro de Culture Prohibée. Pourquoi, à la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir choisi d'écrire sur, justement, David Cronenberg ?
Alors bon, déjà c'est un choix qui date depuis un petit bout de temps, parce que bon, c'était un peu une reprise des recherches que j'avais pu faire dans le cadre d'un doctorat que j'ai soutenu en 2018 à Paris, Paris 1. Donc moi j'ai toujours été passionné par le cinéma, on va dire, de genre, hein, mais au sens large, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai un peu grandi avec les films d'horreur, les films fantastiques, les films de Wes Craven, bon j'étais ado, j'étais en plein dans le slasher, enfin. Donc en fait, c'est un peu l'évolution normale, on va dire, de mes goûts. Et quand j'ai découvert Cronenberg avec La Mouche, bon, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre facette du cinéma, on va dire, gore, d'horreur. Et pas forcément le divertissement, bon, un peu voilà, loufoque, trash, mais qu'il y avait une, voilà, il y avait une autre chose derrière, en fait. C'était une sorte de gore plus sérieux et des thématiques qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, voilà, sur la contamination. Et bon, je me suis très vite passionné, en fait, pour Cronenberg.
Votre livre, donc La transgression selon David Cronenberg, s'articule autour de trois axes. La transgression corporelle, les transgressions sexuelles et les transgressions psychiques. Alors pourquoi avoir articulé votre livre, votre étude, autour de ces trois axes ?
Parce que je pense vraiment que chez Cronenberg, la transgression est partout. Mais c'est une transgression qui reste très souvent dans une espèce d'état on va dire de fantasme, finalement, parce que soit elle est irréalisable, hein, c'est ce qu'on a par exemple dans, bon, à la fin de La Mouche, hein, où on ne peut pas finalement fusionner comme on le voudrait, soit elle n'est pas forcément du côté du cinéaste, pas des personnages, mais plus de celle du spectateur. Parce que finalement, quand on regarde un film comme Crash, et là c'est très intéressant sur la question de la transgression, elle n'est pas visible pour les personnages, parce que finalement ils ne transgressent rien vu qu'il n'y a pas de morale. Donc finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est ce glissement de sens qu'il peut y avoir chez Cronenberg. Donc la transgression est partout, et en même temps, elle s'évapore un petit peu, si vous voulez, quoi. Elle est plus du côté du spectateur qui est face à ses propres, voilà, soit ses propres fantasmes, soit ses propres angoisses. Et parfois, chez les personnages, au contraire, cette transgression n'apparaît pas parce qu'ils évoluent eux-mêmes dans un cadre qui n'est, en fait, finalement pas moral. Donc je pense vraiment que la transgression, il y a toujours chez Cronenberg l'idée d'aller plus haut, d'aller plus loin. Et donc, transgression, hein, c'est ça, hein, le latin, c'est transgressio, c'est l'idée d'aller au-delà, hein, toujours. Et finalement, c'est obsessionnel chez Cronenberg. Après, bon, ça se réalise, ça ne se réalise pas. Et puis bon, c'est aussi une question de perception, quoi.
Et d'ailleurs, si la transition corporelle et psychique sont souvent abordées, hein, dans l'appareil critique quand on parle du cinéaste canadien, en fait, il est fait assez peu de cas. On parlait de Crash à l'instant, mais en fait, ça, c'est présent dans toute sa filmo. De la sexualité dans son cinéma, on en parle surtout au sujet de Crash, en fait. Et vous choisissez d'aller jusqu'à affirmer que Cronenberg développe une sorte de pornographie alternative, allant jusqu'à la parodie, avec par exemple son utilisation des fluides corporels. Voilà. Alors, comment expliquez-vous que ce sujet que vous mettez en avant dans votre ouvrage, hein, est rarement abordé, en fait, concernant le cinéma de Cronenberg ?
Alors, je ne sais pas, je me suis posé la question, c'est vrai, parce que d'un côté, pour moi, ça me paraît évident que la sexualité, la pornographie, enfin, ça un petit peu son distance. Sa caricature, parfois il pousse vraiment très loin les idées. Pour moi, c'est partout chez Cronenberg. Et finalement, avec le temps, Cronenberg est quand même devenu, avec des films, bon, je pense à Faux Semblant, à Butterfly, on l'a reconsidéré dans les années 90 comme un cinéaste potentiellement sérieux, comme un auteur. Et j'ai l'impression qu'on a des difficultés à admettre que justement un auteur puisse avoir cet imaginaire très fort de la pornographie, alors avec des choses très extrêmes, hein. Et pourtant, pour moi, ça irrigue son œuvre. Hein. D'ailleurs, il a commencé quand même à réaliser des films qui étaient produits par des studios de cinéma porno. Hein. Frisson, c'était quand même produit par des... Et d'ailleurs, dans Frisson, on voit qu'il y a une parodie déjà des codes du X avec des personnages qui sont stéréotypés, type l'infirmière nymphomane. Enfin, on a déjà... Après, il a fait un film avec un fils porno, Rage. Bon, il s'est déjà nourri par cet imaginaire-là. Dans Crash, on est carrément dans une esthétique du porno chic aussi, ça rappelle un peu Helmut Newton. Enfin... Et là où il va plus loin dans ses films gore, ses films plus organiques, bah c'est là carrément il y a des métaphores visuelles qui sont folles. Hein. Je pense à tous ces fluides blanchâtres qui évoquent le sperme. Dans le festin nu, on a quand même des espèces de scènes orgiaques avec des créatures hybrides. Enfin, donc non, il y a vraiment cette pornographie tératologique hein, dans son œuvre, avec des corps mutants qui ont une sexualité très développée. Et c'est vrai qu'on a tendance à montrer que Crash, parce que Crash, ça paraît peut-être plus évident. Je ne sais pas. Comme c'est vraiment un film qui traite de sexualité différente, on a tendance à oublier que toute son œuvre, justement, traite aussi de ça. Quoi.
Jamais encore vous n'avez été confronté à quelque chose d'aussi surnaturel, d'aussi étrange, d'aussi angoissant. Jamais avant cet instant.
Vous écoutez Fabien Demangeau, auteur de La Transgression selon David Cronenberg, paru chez Playlist Society, au micro de Culture Prohibée. Il y a peu d'études, en fin de compte, sur le Cronenberg à partir d'Existence, je trouve. Comment vous l'expliquez, ça ?
C'est vrai que à partir de jusqu'à Existence, qui était un peu, on va dire, son dernier film organique dans lequel il y avait encore ses obsessions sur la chair, à partir de Spider, il a vraiment fait un espèce de virage, enfin pour beaucoup de, alors même si ça peut se discuter, hein, parce qu'il y a déjà des films moins organiques avant Spider, hein, Faux-semblant et Butterfly, bon c'était déjà un petit peu différent, mais à partir de Spider, c'est vrai qu'il a changé complètement je dirais pas son cinéma, parce que le fond reste le même, hein, c'est les mêmes obsessions, mais il n'y a plus cette forme du cinéma, on va dire, gore, d'horreur, qui quand même était principalement dans ses œuvres les plus connues. Et c'est vrai qu'on a un petit peu, on s'est moins intéressé à ça, on a dit ça y est, Cronenberg devient un cinéaste plus classique, il a perdu justement un peu de sa superbe, on a cette impression-là, et finalement c'est juste qu'il a essayé de développer en fait autre chose, hein, simplement, et d'autres formes de cinéma. C'est quelqu'un qui s'intéresse au genre, hein, au genre au pluriel, au genre cinématographique, bon, au genre pour la sexualité, pour tout ça, bon, c'était le genre au sens large. Et c'est vrai que ce côté hybride, on l'a vu dans son œuvre, ça veut dire comment mélanger au sein d'un même film, par exemple dans La Mouche, le mélo avec le film fantastique, le gore, il y a toujours eu ces choses-là, et finalement il a continué à faire ça dans son œuvre la plus récente, disons que en passant plus directement par le prisme du cinéma, plus de série B ou d'horreur. Hein, voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a surpris quand même pas mal de monde. Et ces films ont moins intéressé effectivement la critique et moins d'analyse de fait dessus. Effectivement. Oui.
D'ailleurs, on a l'impression d'ailleurs, c'est assez drôle en fait, que dès qu'il perd les fans qui l'accompagnaient, qui étaient branchés des fantastiques, horreurs, dès qu'il les perd à partir de Spider, qui est plus cérébral, qui est différent, il les retrouve au moment où il va signer ses deux polars, quoi, en fait, History of Violence et Les Promesses de l'Ombre. Donc c'est vraiment, pour moi, on a vraiment besoin, enfin les fans de la première heure ont vraiment besoin d'un Cronenberg qui s'attaque plus frontalement au genre, j'ai l'impression.
Oui, oui, parce que et ça se voit vraiment sur les succès ou les échecs de sa filmographie finalement des années 2000, hein, parce que les deux films qui ont eu du succès, bah, c'est Story of Violence et Les Promesses de l'Ombre, et on parle pas des échecs de Cosmopolis notamment, et même de Maps of the Stars, c'est pas des films qui ont fonctionné. Hein. Donc c'est vrai que il reste un peu ancré, on compense à Cronenberg, j'ai l'impression que le public principal, enfin celui qui l'a suivi hein, à ses débuts, hein, en 80, celui de Scanners ou de Dead Zone par exemple, c'est sûr, se rattache forcément à un genre qui est beaucoup plus dans History of Violence et Promesses de l'ombre, bon, même s'il y a des tonalités un peu différentes par moment, on reste centré quand même sur des genres bien précis. Et finalement, c'est pour ça que Cronenberg, vraiment souvent, c'est comme John Carpenter, c'est comme Wes Craven, Toby Hooper, on a tendance à l'ancrer que dans le genre, hein, vraiment. Et donc, difficilement accepter qu'il puisse un petit peu faire d'autres choses. Et finalement, c'est pour ça que Cosmopolis, Map to the Stars, ça reste des films... pour certains, voilà, on peut user de méthode. Enfin, bon, on a du mal à connecter ça en fait au reste de l'œuvre de Cronenberg. Enfin, pour certains spectateurs qui sont vraiment plus amateurs du Cronenberg de la première heure.
D'ailleurs, vous parliez de Dangerous Method. Dans le livre, vous faites des liens entre le cinéma de Cronenberg et le bon vieux Sigmund Freud. Pourtant, les rapports de Cronenberg avec la psychanalyse sont assez paradoxaux parce qu'on sent qu'il est à la fois passionné par le sujet, il est aussi très critique, il est parfois même ironique vis-à-vis de la psychanalyse.
Oui, alors ça s'explique aussi par des événements, je pense, on peut l'évoquer personnel. Hein, quand il a réalisé Chromosome 3, hein, qui est quand même un film assez fort, qui parle d'une sorte de thérapie qui crée des monstres, enfin bon, chez une femme qui est vraiment très perturbée. Déjà, là, il évoque ce qu'il a vécu. Hein, sa femme à l'époque avait été partie avec sa fille pour vivre dans une espèce de secte, hein, un peu vivant en autarcie, voilà. Et donc, lui, il s'intéresse vraiment à tout ce qu'est la psychanalyse, on va dire, qui est reprise par tous les gourous, tout ce qui est un peu New Age, quoi. Et c'est ça qu'il critique aussi beaucoup dans son œuvre, dans Chromosome 3 et dans Map to the Stars. Après, je pense vraiment qu'il est très intéressé par la psychanalyse et par Freud, hein, sinon il n'aurait pas fait ce film, sur lui. Après, c'est vrai que dès son premier court-métrage, qui s'appelait Transfer, hein, c'est un petit film de 6 minutes où il y avait justement une discussion complètement surréaliste entre un psy et puis son patient, bah, il montrait déjà qu'il avait une espèce de recul vis-à-vis de ce que la psychanalyse pouvait apporter, en fait. Donc, d'un côté, ça l'intéresse parce que, il pense que l'esprit, hein, chez Cronenberg, l'esprit, le corps, il y a un lien, hein, pour lui, les dysfonctionnements du corps et de l'esprit, c'est un peu la même chose. Donc, il s'intéresse forcément à ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours eu une méfiance, mais je pense que la méfiance, elle est aussi plus liée aux continuateurs, à certains types de continuateurs de la psychanalyse, qui justement l'ont perverti de l'intérieur, plutôt qu'à la psychanalyse comme telle elle était, comme elle pouvait être à la base, quoi.
Ben justement, vous parliez à l'instant de lien entre le corps et l'esprit. À l'ère du transhumanisme, j'ai envie de conclure par cette question, mais Cronenberg, est-ce qu'il a encore une place derrière une caméra? Parce qu'on se demande quand est-ce qu'il va repasser derrière une caméra. Il semble plus motivé par l'idée de faire du cinéma.
Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu récemment un projet de film qui devrait se faire, ou du moins commencer à être tourné dans cette année ou l'année prochaine peut-être. Il reviendrait plus à... Alors justement, on parlait de Polar, History of Violence. Il va refaire un film avec Viggo Mortensen, qui serait encore un film noir. Bon, donc c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de toutes les thématiques qu'il a pu avoir à l'époque, justement, où il s'intéressait aussi au transhumanisme. Hein. Finalement, il y avait toute cette notion. Alors on pense à La Mouche, on pense à Vidéodrome, ou carrément les... On fait corps avec la machine, hein. Il y a souvent ça, hein. S'améliorer par la machine. Il était précurseur, Cronenberg, sur toutes ces thématiques, hein. Que ce soit Vidéodrome, même La Mouche. Aujourd'hui, s'il revenait à ça, on pourrait imaginer quelque chose. Hein. S'il revenait à son travail sur l'homme qui a la possibilité de devenir supérieur grâce à la technologie, il pourrait faire des choses aujourd'hui encore plus folles, peut-être à l'ère d'Internet. Mais... J'ai l'impression aussi, peut-être, alors c'est une idée, hein, mais que ça ne l'intéresse plus vraiment, ou moins, et qu'il est passé relativement à autre chose. Et que peut-être ces obsessions-là, aujourd'hui, c'est dans son travail d'écrivain. Parce que bon, il y a quand même ça, Consumer, son roman qu'il a publié en 2014, va assez loin, en fait, beaucoup plus loin même que ses films, dans tout ce qui est organique, exploration du corps. On imprime carrément des morceaux de corps avec une imprimante 3D, enfin... Il y a vraiment des choses qui vont très loin. Et finalement, peut-être que dans la littérature, parce que le cinéma, pour lui, n'est pas apte forcément à représenter tout. Hein, donc, au bout d'un moment, ça ne l'intéresse pas non plus de faire du gore du gore pour du gore. Cronenberg, ce n'est pas non plus un cinéaste de la monstration, on va dire. Donc, peut-être que par la littérature, il pourrait continuer en fait, à explorer ces thématiques de jeunesse.
D'accord, eh bien, bah, merci beaucoup. On rappelle l'ouvrage, hein, la transgression selon David Cronenberg, qui est paru donc chez Playlist Society. Et eh bien, on remercie Fabien Demongeau pour cet entretien et on encourage nos auditrices et auditeurs à se précipiter sur cet ouvrage.
When your heart begins to pound, when your mind begins to go, keep telling yourself it's only a movie.
You do magic too?
Corky does magic. I only do tricks.
There's never been a magician like him.
How long you been like this, kid?
You never really told why you were here.
Hiding. Wasn't that cheap in New York?
You won success, but you're afraid of it.
I figured I'd stop by here and ask you folks about you.
Not afraid.
Where were you living? What city? How many kids?
I'm not afraid.
Never expected to find you. I've loved you all my damn life.
I won't be here!
I was afraid of success, like you said. I needed to get my head on straight.
And now you're fine?
Sure, on account of Peg. I've known her ever since high school. I never figured I'd have a chance with her.
Peg Yance, no, please. Let me follow wherever you go.
It's you and me, take her.
I love Peg.
Just the two of us. Now everything's changed. She believes me.
A man appears after 15 years. Says run away with me.
Don't kill her.
Oh, please, don't kill her. No, I can't do it! I won't do it! You can't leave me!
Magic. A terrifying love story. Joseph E. Levine presents Magic, starring Anthony Hopkins, Anne Margaret, Burgess Meredith, Ed Lauter, distributed by 20th Century Fox.
Nous allons conclure cette émission par un film fantastique sorti chez Rimini. Alors, un film fantastique particulier parce qu'il est réalisé par un metteur en scène qui n'est pas spécialement un metteur en scène de films fantastiques, hein, qui a été acteur avant, qui est Richard Attenborough, et qui fait ce film pour pouvoir faire ensuite Gandhi. Il va faire Gandhi juste après ce film donc, qui s'intitule Magic. Magic avec Anthony... Le film tient autour de quatre acteurs, en gros. Hein. Anthony Hopkins, qui interprète Corky Weiser. Alors, Corky, qui est un peu un magicien qui n'arrive pas à s'imposer, qui est malade. Rendu malade par sa timidité. Quoi. Il a une timidité maladive. Et puis... Un jour, il décide de travailler avec une marionnette et de devenir ventriloque et magicien à la fois. C'est-à-dire qu'il a une marionnette qui s'appelle Fats, qui est un peu vulgaire, hein, voilà, qui est un peu son âme damnée et qui dit ce que lui ne peut pas dire ou ce qu'il n'ose pas dire. Et il commence à rencontrer le succès. Et Burgess Meredith, lui, est un agent de star, quoi, voilà, et il va faire de lui une star. Et il vient le voir, puis il lui dit « Bon, écoute, mon gars, tu vas pouvoir passer à la télé, tu vas pouvoir devenir une célébrité, ça y est, tu vas être riche à millions. » Bon. Et à ce moment-là, Anthony Hopkins dit à Meredith « Bah, écoute, non, je veux bien, mais je ne veux pas faire de visite médicale. Bah, »« c'est obligatoire, la visite médicale. »« Non, je ne veux pas faire de visite médicale. » Bon. Étrange, voilà, il comprend pas. Et Anthony Hopkins se casse et retourne en pleine campagne américaine. Et il part s'installer dans une baraque au bord d'un lac, comme ça, un petit chalet, qui est tenu, une sorte de maison d'hôte, hein, comme on dit aujourd'hui, par l'actrice Anne Margaret, qui trouve là son meilleur rôle. D'ailleurs, elle est vraiment excellente dans le film. Et qui vit avec son mari, mais en fait, c'est... leur couple bas de l'aile, quoi, qui est interprété par Ed Lauter, une des gueules du cinéma américain. Mais il va arriver des trucs à Anthony Hopkins, quoi, voilà, et à sa marionnette, à Fats. Et puis il va arriver des trucs à Anne Margaret, parce que Anne Margaret, en fait, c'est son amour de jeunesse, quoi, c'est son amour du lycée. Donc quand il arrive, il provoque un truc chez elle, quoi. Elle le reconnaît, lui le reconnaît, mais en gros, c'était un amour pas consommé, quoi, quand ils étaient gamins. Et bon, bah là, ça va pas être pareil. Et ça va donner un film très, très étrange, qui est un film fantastique, mais en même temps, qui est aussi un film sur la folie, qui est, voilà, on a l'impression qu'Anthony Hopkins répète ses gammes avant de faire Hannibal Lecter dans les années à venir. En tout cas, un film très intéressant, n'est-ce pas, Thomas ?
Oui, un film fantastique en demi-teinte, hein, qui explore plus les recoins les plus sombres de l'âme humaine, hein, selon la formule consacrée. Et c'est un film qui fait peu dans les effets, en fait. Qui fait peu dans les effets. Il y a pas de gore. Bon, il y a quelques meurtres quand même. Il y a quelques morts. Hein, mais il y a pas de gore. Il y a pas de gros effets. Il y a pas de ce qu'on appelle aujourd'hui des jump scares, des choses comme ça. On est vraiment dans la suggestion, dans l'ambiance. Et je trouve que c'est un excellent film avec. Et je trouve que Burgess Meredith est super dedans. Hein, bon, de toute façon, c'est un grand acteur. Il y a cette scène que je trouve formidable où il demande à Anthony Hopkins de faire taire sa marionnette pendant 5 minutes. Et cette scène, elle est super. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et ça joue que sur l'attente, sur les chants contre chants, sur quelques répliques échangées, un jeu de regard. Je trouve cette scène exceptionnelle.
Il y a très peu de musique. Le metteur en scène, Attenborough, il utilise aussi vachement bien les ombres. Parce qu'en fait, le personnage de... Bon, on comprend très vite dans le film. Hein, le personnage d'Anthony Hopkins, c'est un psychopathe, ou alors il est bipolaire. Enfin, en tout cas, il a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Il y a deux Anthony Hopkins. Sa marionnette, ce n'est pas un hasard. C'est Anthony Hopkins aussi. Quoi. Voilà. Et si vous regardez bien le film, il y a tout un jeu avec les reflets, les ombres d'Hopkins. Hopkins, il est toujours à deux, en fait. Il y a toujours Hopkins et son ombre. Comme si les cadres sont hyper travaillés. Et moi, j'aime beaucoup la scène qui suit, celle dont tu viens de parler, Thomas, où en fait Anthony Hopkins va commettre un acte particulier et il va se retrouver dans la flotte à côté du lac. Voilà, il va se retrouver dans la flotte. Et à ce moment-là, on a la caméra, un peu à l'image du plan final des Diaboliques de Clouseau, qui va fixer, on y croit quoi, et qui va fixer dans la nuit le visage de la poupée qui est à la fenêtre. Et on a l'impression que la poupée regarde Anthony Hopkins faire ses actes inavouables. Voilà. Alors qu'en fait, c'est juste... c'est la magie de la mise en scène. Parce qu'en fait, c'est juste une poupée posée devant une fenêtre. C'est génial. Enfin, c'est de la mise en scène, quoi. Voilà, c'est vraiment très beau. Et en plus, c'est très, très bien amené puisqu'il utilise la nuit. Et je pense qu'il éclairait que la poupée, en fait, ou quasiment que la poupée. Du coup, ça donne un aspect vraiment flippant. C'est vraiment, pour moi, une belle réussite. C'est une redécouverte. C'est une redécouverte, ce film. J'avais vu il y a très longtemps, et quand j'étais plus jeune, il ne m'avait pas parlé parce que je l'avais trouvé un peu long, un peu lent. Je comprenais pas aussi cette attirance qu'il avait pour Anne Margaret, alors qu'en fait, je la trouve très belle maintenant. Maintenant que j'ai la même âge, j'ai quasiment le même âge qu'Anthony Hopkins et Anne Margaret dans le film, voilà. Et je trouve qu'il y a un vrai truc qui se passe entre eux. Elle, je la trouve excellente dans le film. Elle est toujours à la limite et elle est excellente. Et Hopkins, idem. Parce qu'Hopkins, il peut être cabotin, quoi. Et là, il est à la limite et ça se tient. Bon, je pense qu'ils sont très bien dirigés aussi, les acteurs. Et c'est un drôle de film parce que c'est un film, une fois qu'il est terminé, alors même si le plan final, là, avec Anne-Margret, je le trouve peut-être un peu de trop. Voilà. Mais par contre... C'est quand même un film, une fois que vous l'avez vu, il vous reste en tête. Il vous marque sa mélancolie, en fait, sa tristesse. C'est un film profondément triste, hein, quand même. Hein. Sa mélancolie, sa tristesse vous marque. Voilà. Parce que c'est quand même l'histoire d'un type à qui tout réussit, qui va se saborder parce qu'il est malade. Voilà. Donc c'est quand même un drôle de film.
And
écoutez Culture Prohibée.
On n'a pas parlé en soi du scénariste William Goldman, qui est notamment auteur de Marathon Man ou de Princess Bride. Donc au niveau du scénario, on a quelqu'un de très très lourd. Et un truc intéressant, c'est qu'il a aussi, il est aussi le scénariste de Dreamcatcher, dont tout le monde se souvient pour les sourcils de Morgan Freeman. Il y a une atmosphère qui se dégage du film qui est vraiment intéressante. Il y a quelque chose de Stephen King dedans. Pour revenir au titre, Magic, le titre prend son sens au moment où Anthony Hopkins tente de faire un tour de magie avec Anne Margaret, qui en fait, elle doit penser très très fort à une carte et il doit réussir à la retrouver à distance, enfin en face à face, en fouillant lui-même dans ce paquet. Et en fait, c'est un tour qui vient de son prédécesseur et qui est pour lui le seul tour de magie qu'il a déjà vu. Et c'est un tour de magie qui repose sur une question d'amour. Mais c'est surtout un tour de magie qui repose sur la capacité à lire les pensées et finalement de réussir à les exprimer avec quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce qu'il fait avec sa marionnette, ce que je trouve très intéressant, vu que, comme tu as dit, Jérôme, sa marionnette déjà lui ressemble énormément et elle porte le doux nom de Fats, qui peut être vu comme gros pluriel en anglais. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est une marionnette qui l'auto-décrit, mais qui a beaucoup plus... qui attire beaucoup plus l'attention que lui et qui est beaucoup plus préféré aux autres et qui exprime ses propres pensées, ce qui veut dire que le titre renvoie également au lien que Anthony Hopkins a avec sa marionnette et renvoie à la question d'amour, et dans ce cas-là on a affaire à de l'amour propre. Magie pose une question à travers finalement la magie, la perversion du trucage. À force de détourner l'attention, le magicien et son tour de magie, une illusion au profit du geste.
Tu soulèves quelque chose d'intéressant, Damien. Alors déjà, son maître s'appelle Merlin, donc c'est pas un hasard, puisque c'est évidemment tout de suite on pense à Kaamelott, hein, voilà. Sauf que là, le royaume a quelque chose d'un peu pourri, comme disait un certain William, mais en tout cas, c'est pas innocent. Et parce qu'on le voit au début, Anthony Hopkins, quand il galère, il vit en fait chez son formateur, chez son magicien formateur. Mais tu poses un élément très important. Effectivement, cette scène de la télépathie avec les cartes, on apprend plus tard dans le film d'ailleurs que c'est juste un truc de magicien en fait, il n'y a pas de télépathie. Hein. Mais du coup, elle induit qu'il y a une sorte de jonction télépathique entre les deux amants. Voilà. Et c'est quelque chose d'important dans le film, parce qu'en fait, à ce moment-là, que cette jonction télépathique existe ou pas, de toute façon. Parce que le film, à la limite, à la fin, on peut se dire que ce n'est pas du tout un film fantastique. Hein. Si on le regarde voilà, jusqu'au bout, on peut dire que ce n'est pas fantastique. Pourtant, c'est un film avec des éléments fantastiques. Voilà. À ce moment-là, elle sait qui il est, en fait. Si elle ne comprend pas à ce moment-là, elle ne comprendra jamais. Elle sait qui il est. D'ailleurs, la petite scène finale prouve qu'elle sait qui il est. Enfin, voilà. Elle sait très bien que ça va être un amour compliqué, quoi. Et elle sait qui est ce type, quoi. Enfin, je pense que à ce moment, c'est une scène vraiment importante dans le film. C'est vraiment la scène de bascule, parce qu'à partir de ce moment-là, elle sait que c'est un psychopathe, quoi. Voilà, c'est qu'il n'est pas normal, en tout cas, qu'il a un comportement pas normal. Donc, elle ne peut pas ne pas le savoir. Donc, elle ne peut pas... ne pas savoir qu'il va se passer des choses pas claires, mais elle préfère fermer les yeux par amour, en fait, quoi. Voilà, parce qu'elle l'aime vraiment, elle est vraiment amoureuse de lui.
Il s'inscrit dans le fantastique dans le sens où c'est un film qui, comme The Thing de Carpenter, hein, traite du pulsionnel. Le pulsionnel, le retour du refoulé qui émène ce personnage incarné par Anthony Hopkins à sa perte, qui ne peut pas réussir. Il est persuadé qu'il ne peut pas réussir, donc à tous les moyens, il se mène lui-même à sa propre perte en extériorisant ce qu'il n'a jamais osé dire. Ce qu'il n'a jamais osé faire, c'est-à-dire tenir tête aux gens, leur montrer parfois même du mépris, hein, leur montrer... Parce que même s'il aime cette femme, à un moment, il y a une scène où il se fout de sa gueule, quoi. C'est un film aussi sur cet homme qui a du mal à imposer sa virilité, sa masculinité auprès des autres. Comment il détourne ça, puis finalement, cette façon de le détourner le mène à sa perte.
Yeah. c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard and the Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.